Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f-. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Bienvenue à tous, la belle histoire de France sur CNews avec Franck Ferrand, Marc Menant. La belle histoire de France avec le chapitre 45, 1848. Retour à la République. Alors dans cette émission, nous allons aborder la naissance de la Seconde République, on l'appelait comme ça à l'époque, avec en toile de fond l'année 1848, la Révolution. Nous allons voir l'influence de la Révolution au-delà des frontières et puis l'arrivée au pouvoir de Louis-Napoléon Bonaparte. C'est parti. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver messieurs, mon cher Marc, mon cher Franck. Alors Franck, vous aviez commencé la semaine dernière à l'évoquer un peu du 22 au 25 février, ces trois journées, uniquement trois journées 1848, mais quelle force de révolution.
Vous vous rappelez la révolution de 1830, ce qu'on appelait les Trois Glorieuses.
Oui.
Bon, là, ça n'a pas lieu cette fois l'été comme en 1830, ça a lieu en plein hiver. On est donc en février 1848. Ce qu'il faut vous dire, c'est que cette Seconde République, que nous maintenant nous appelons la Deuxième République, parce que second, ça laisse entendre qu'il n'y en a pas d'autres. On sait, nous, puisqu'on est dans la Cinquième, qu'il y en a eu d'autres. Bon, cette Deuxième République, elle n'est pas d'un seul tenant. Elle voit le jour, effectivement, au début de 1848. Elle va être singulièrement bousculée à la fin de 1851 et elle tombe définitivement avec la proclamation du Second Empire en décembre 1852. Mais ces quatre années sont très différentes avec, au début, donc, cette révolution que Marc va nous raconter dans un instant. Ensuite, cette année républicaine où on va essayer de créer des institutions nouvelles. Et puis, il y a une constitution. Et puis, une élection présidentielle, ça bascule dans un régime présidentiel fort dirigé par Louis-Napoléon Bonaparte et qui lui-même va faire des coups d'État. Vous voyez, ce ne sont que quatre années, mais ce sont quatre années qui bougent énormément. Alors d'où vient-elle cette révolution? Elle vient de la maladresse de ce pouvoir de Louis-Philippe qui était là depuis 18 ans. On vous l'a dit, depuis la mort du duc d'Orléans, le roi n'est plus tout à fait lui-même. Il s'est crispé dans une espèce de conservatisme qui lui ressemble assez mal, d'ailleurs, en vérité.
Il n'était pas tout jeune non plus.
Non, il n'était plus jeune du tout, c'est le moins qu'on puisse dire. c'est vrai, il avait un premier ministre, Guizot, qui était un conservateur pur et dur, un homme vraiment pas drôle, si je puis dire, et qui avait la singulière habitude de limiter l'expression de l'opposition par tous les moyens possibles. Et notamment, l'opposition, qu'elle soit libérale ou républicaine, est obligée de se réunir dans des banquets parce qu'on n'a même pas le droit de faire des manifestations ou des réunions publiques, ce que nous appelons des meetings.
Ils n'étaient pas sous Covid, pour autant.
Et pourtant, il n'y avait pas de Covid. Oh, il y a eu le choléra, cela dit. Mais ouais. C'était en 32, ça, c'était un petit peu plus tôt. Bon. Toujours est-il que le 14 janvier 1848, on demande la possibilité de faire un grand banquet républicain dans le 12e arrondissement. Le préfet de police l'interdit. Tous les républicains, à l'époque, se disent... Puisque c'est ainsi, on va tous se réunir au grand banquet du 22 février et il y aura une manifestation parce que tous les journaux d'opposition, on appelle ça l'opposition dynastique à l'époque, tous les journaux appellent à manifester. Mais le préfet de police réinterdit le banquet et la manifestation du 22 janvier qui ont lieu quand même. Vous savez, vous vous rappelez Lamartine disant « j'irai seul, suivi de mon ombre, si personne n'y va ». Bon, en fait, bien du monde voulait y aller. Très vite, c'est la panique dans les rues de Paris. On remonte les barricades, on commence à savoir faire, vous me direz. Et puis, donc, on est là 22, 23, 24 février 1848. Dès le 23 au soir, la garde nationale, c'est-à-dire vraiment ceux qui assurent l'ordre dans la capitale, se mettent à fraterniser avec les insurgés. C'est fini. Oh, Louis-Philippe ne va pas se défendre longtemps. Il attrape un brougham, c'est-à-dire une espèce de voiture de louage, et il s'en va, il s'enfuit, comme ses prédécesseurs. Encore un souverain qui s'enfuit sous les cris de la rue et de la foule. Voilà comment cette révolution de 1848 va faire basculer le régime.
Trois petites indications en complément. D'abord, il faut savoir qu'on est dans une époque où la météo est totalement folle. Il y a eu des inondations terribles. C'est la famine. En Irlande, il y aura plus d'un million de morts. C'est-à-dire que c'est toute l'Europe qui est touchée. Et les ouvriers en France, les usines ferment les unes derrière les autres. Il y a plus d'un million de chômeurs. Le pain atteint des prix astronomiques. Donc, lorsque la situation telle que Franck vient de nous la décrire se répand, l'ensemble du peuple, la multitude, comme dira Hugo, s'embrase et c'est pour ça que l'on arrive à ce résultat.
Essentiellement à Paris. Hein. Il y a cinq villes de province. Où, enfin, c'est une révolution une fois de plus parisienne. Il y a eu aussi, et Marc a raison de donner, je voulais aller vite, mais c'est vrai qu'il y a eu aussi, c'est très important, beaucoup de scandales à la fin de ce règne de Louis-Philippe. Et notamment, il y a eu l'assassinat de la duchesse de Praslin, de très grande famille de Choiseul. Hein. Et cette duchesse, on se demande si ce n'est pas son mari qui l'a tuée. Et si, on finit par le croire. Et il va finir, lui, par se suicider, dit-on, dans sa cellule. Vous voyez, comme il est très proche, on disait que c'était le meilleur ami du roi. Ça n'a pas aidé non plus. L'atmosphère était délétère et c'est la Révolution.
Et c'est la Révolution. Alors la Révolution, justement, de 1848... vu par un certain Victor Hugo. Alors avec vous, Marc, on va s'intéresser justement à ce Victor Hugo, à la perception de Victor Hugo qui était là, témoin de cette révolution. Alors, quel témoin ?
Bah oui, 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 il fait ses débuts de reporter, si je puis dire. Il prend des notes et ensuite... quelques années plus tard, il rédigera « Chose vue ». Exactement, ah, ses sensations. Le père, là, voilà, il est élu à la Chambre des Pairs. Il appartient, je dirais, au cercle d'intime du roi Louis-Philippe. Je vous ai raconté la semaine dernière comment le roi aimait de temps en temps s'accaparer Hugo pour se laisser aller à toutes les confessions, à tout ce qu'il ressentait. Et c'est comme ça que l'on a pu percevoir la vivacité d'esprit du roi, sa grande intelligence. Alors là, quand on ouvre « Chose vue » à la page 1848, ah, il nous raconte...
Je cherche. page 18...
Allez-y, allez-y.
Page 1848. Alors, qu'est-ce qu'il raconte ?
Eh bien, il raconte qu'il se destine à aller vers la chambre des pairs. Il est dans un cabriolet, c'est pas lui qui tient les rênes du cheval, mais il est bien installé à l'extérieur. Il entend des cris, c'est incroyable. Il penche la tête, aperçoit sur le côté, et là, il dit, ils sont trois par trois, bras dessus, bras dessous, avec leur tenue, leur casquette. C'est le peuple qui est dans la rue et qui en appelle donc à la révolte. Il se glisse jusqu'à... Il prend... dans la rue de Lille, il aperçoit face à lui, attendant ce peuple vociférant, la troupe qui est là, l'arme au poing. Il se dit, c'est terrible ce qui va se passer. Et quand il gagne l'assemblée, il se confie, il raconte, voilà ce que l'on peut craindre, et les uns les autres. Sommes alors dans une légère temerité. Vous avez vu, mon cher ami, il pleut. Ils vont être toute la journée comme ça. Ce soir, ils rentreront bien là, chez eux, éreintés, et ce sera terminé. Et quand on continue à lire « Chose vue », là, je repiétine les cent évoquées tout à l'heure par Franck, c'est le roi, le soir, quand la situation s'est détériorée, car Hugo ressort, voyant que malheureusement, personne ne fait attention aux événements, la rumeur.
Il habite place des Vosges à l'époque.
Voilà, il habite place des Vosges. Alors, il retraverse Paris, il enjambe les barricades, il est là, il est curieux. Forcément, il a déjà une forte notoriété. Quand on le reconnaît, hey, citoyen Hugo ! Et d'ailleurs, à un moment donné...
Il a quel âge à peu près à cette...
Il est né en 1802, donc il a 46 ans.
Voilà.
D'accord. Et d'ailleurs, pardon, je vous ai interrompu. Oui.
Mais non, pas du tout. Et alors, il y en a un qui lui dit, citoyen Hugo, crie vive la République ! Et là, Hugo, il dit, moi, la liberté, je la pratique. Il est hors de question que l'on me fasse crier quoi que ce soit. Et si un jour, je dois dire, vive la République, c'est parce que je l'aurais voulu. Vous voyez, il ose face à ces gens qui sont là dans une fièvre débordante et qui ne tiennent plus compte de la moindre autorité. Alors bon... la situation se détériore. Le soir, boulevard des Capucines, il y a la foule qui se retrouve encore face à la troupe. La troupe n'a pas tout à fait eu la fraternité spontanée et donc elle est encore dans l'obéissance à l'ordre absolu. Et il y a un coup de feu qui part, on ne sait pas si c'est la troupe, on ne sait pas si c'est un individu. Dans les immeubles, toujours est-il qu'il y a 3 morts et quelques blessés. Et là, on ramasse les morts, on les charrie dans un fourgon et on se promène dans la capitale en disant « On égorge le peuple, on égorge le peuple !» Et forcément, tout ça devient démesuré et c'est là que les soldats commencent à fraterniser. Le roi est prévenu de ce qui se passe. Et là encore, quand on regarde dans Chose Vue, on s'aperçoit que la veille, il avait reçu le dernier frère de l'empereur.
Un Jérôme.
Voilà.
Jérôme Bonaparte.
Voilà. Et qui lui avait dit, mais vous savez, sire, j'ai l'impression qu'il se trame quelque chose, ça va pas très bien. Avait-il répondu ricanant le roi?
Il imite bien Louis-Philippe.
il était là. Quand même.
Ben c'est ça,
voilà. Ne vous en faites pas, ils ont besoin de moi, je leur suis nécessaire. Il ne se passera rien.
Ce décalage.
C'est incroyable. C'est-à-dire que vous avez vraiment ceux qui mènent le pays et qui tiennent compte de rien.
L'élite et le peuple.
Voilà. Alors néanmoins, il prend la décision.
Comme toujours.
Hein, oui, comme toujours.
Il prend la décision de chasser Guizot. Il fait venir Thiers et Odilon Barrault.
Odilon Barrault, libéral.
Voilà. Ah ouais. Thiers, très rapidement, comprend qu'il n'y aura pas grand-chose à faire. Et par conséquent, c'est Odilon Barrault qui se retrouve seul. Autre personnage qui est très contesté parce qu'il représente la force de l'ordre, c'est le général Bugeaud. Et quand on voit le général Bugeaud, là encore, dans Chose Vue, c'est terrible parce que ce personnage est d'un cynisme inouï. Il dit « Dussé-je ?» avoir devant moi 50 000 femmes et enfants, je les mitraillerai. Rien ne m'arrêtera. Ce qui compte, c'est l'ordre. La journée est épouvantable et le roi, le soir, il y a Crémieux qui vient le voir et qui dit « Sire, il faut partir, il faut partir ». Il est là dans son fauteuil, il a pris un papier sur lequel il laisse les consignes pour le suffrage à changer et il dit « Ce sera pour mon successeur. Dépêchez-vous, sire, dépêchez-vous. » On l'aide à se dévêtir et il dit « Une redingote, un chapeau pour qu'il sorte en bourgeois, qu'on ne le reconnaisse pas. » On a donné ordre à ce que 4 carrosses attendent le roi afin de cheminer et de fuir en catimini. Et quand on se présente, le roi est passé là clandestinement, pratiquement, et il n'y a pas le moindre cheval à l'attendre, car les 4 voitures en question ont été brûlées et l'un des cochers tué. D'ailleurs, l'un des personnages qui a participé à ce massacre odieux a pris la tenue de pauvre cocher. Il est en train de jouer les agitateurs dans la rue. Alors que fait le roi ? Il aperçoit un petit fiacre. Il marche rapidement. La reine est à ses bras. Et à l'intérieur, il y a 2 femmes. Ce sont ses filles et ses petits-enfants. Il dit « Dors, 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 allez-vous-en !» Et hop, forcément, on obéit au roi. Il monte dans le fiacre. Les personnes se retassent comme ils peuvent à côté de lui. Et c'est comme ça que la longue route de l'exil s'ouvre pour Louis-Philippe. Que se passe-t-il sur place ? Eh bien, la révolution, ça y est, elle a abouti à l'hôtel de ville. Le peuple s'est regroupé, comme toujours quand Paris s'agite, c'est à l'hôtel de ville le point de rendez-vous. Et on crie « Vive la République ! Le drapeau rouge ! Le drapeau rouge !» Là, Lamartine intervient en disant « Mais le drapeau rouge, c'est le symbole du sang, alors que le drapeau tricolore, c'est la République dans sa toute-puissance, c'est la Révolution, il nous faut garder le drapeau bleu, blanc, rouge. »
C'est le poète Lamartine qui sauve le drapeau tricolore.
Tout à fait. Et alors, eh bien, notre Hugo, lui, il continue son travail de reporter, va d'un point à l'autre. Et le 26, il est avec son jeune fils, prend la direction de l'hôtel de ville pour voir ce qui s'y passe. Il rencontre Rambuteau, qui est le préfet de la Seine, il lui dit, mais où allez-vous? Il est défiguré, Rambuteau. Oh, il lui dit, on m'a dit de partir, on m'a dit, votre place n'est plus ici. Hier, c'était le préfet, aujourd'hui, c'est le peuple qui a sa place à l'hôtel de ville. Il monte les étages et rencontre Lamartine. Lamartine, avec sa redingote extrêmement bien boutonnée, il a l'écharpe tricolore sur lui, il lui dit « Mon cher Hugo, vous venez avec nous, quel renfort pour la République !»
Il cherche des ralliements.
Enfin, il cherche des ralliements. Et je ne vais pas vous faire le dialogue dans son exactitude. Mais en gros, Hugo lui dit « Mais pas du tout !» Je suis pour la République viscéralement, mais hier, pendant que vous étiez en train de combattre la Régence, car quand le Louis-Philippe abdique, il laisse la place au comte de Paris et son petit-fils. Mais le peuple, lui, ne veut pas en tenir compte. Il dit, mais pendant que vous donc imposiez la République, moi, je me battais pour la Régence. Je crois en la République. Je crois que la République universelle, ce sera l'acmé du progrès. Mais en attendant, je trouve que c'est prématuré. Alors, Lamartine est déçu. Il lui dit, mais on vous aurait donné le ministère de l'éducation, vous imaginez? Hugo, ministère de l'éducation. Il lui dit, nous n'en sommes pas là. Et à la fin, vous faites grandement votre devoir de génie. Et il salue Lamartine.
Magnifique, merveilleux, mon cher Marc. 1848, une année mouvementée. Et si la révolution, finalement, elle ne dure que deux jours, messieurs, deux, trois jours,
oui.
C'est toute l'année qui est mouvementée.
Bien
ce
sûr.
Ce sont des événements, finalement, qui ont marqué l'année.
Oui, parce que ça commence en février 48, cette révolution donc, et l'élection de Louis-Napoléon à la présidence, c'est décembre 48. Donc toute l'année, pendant 10, 11 mois, ça va être l'agitation de cette année 48, qui va d'ailleurs faire tache d'huile dans toute l'Europe, on en parlera tout à l'heure.
Ce que je vous dis sont les conditions qui sont requises, c'est-à-dire que l'ensemble de l'Europe est sans dessus-dessous.
Tout le monde a faim.
Voilà. Tout le monde a fait.
On peut dire que c'est une année révolutionnaire.
Ah oui, c'est une année révolutionnaire, mais vous imaginez, c'est juste une petite parenthèse que je voudrais faire, mais quand même, maintenant que nous avons fait toutes ces émissions, c'est amusant de faire un tout petit coup de
rétroviseur,
dans le rétroviseur.
Pas jusqu'à Vercingétorix.
Vous rendez compte qu'entre la révolution de 1789, on était allé chercher Louis XVI et Marie-Antoinette à Versailles, vous vous rappelez, la chute de la monarchie en 1700, à la toute fin de l'année 1792, et l'exécution de Louis XVI dans la foulée, il y a eu cette terreur avec Robespierre, vous rappelez, puis la chute de Robespierre, la République thermidorienne, le directoire, et puis après le directoire, paf, ce général Bonaparte qui fait un coup d'État, qui instaure le consulat, et puis ce consulat qui deviendra le Premier Empire, la chute du Premier Empire, le retour des frères de Louis XVI, Louis XVIII. Au bout d'un an à peine, Napoléon qui redébarque, les 100 jours, et allez, Louis XVIII qui revient, la mort de Louis XVIII, Charles X, chassé du trône en 1830, et voilà que 18 ans plus tard, c'est au tour de Louis-Philippe. Vous imaginez un peu l'agitation dans ce pays pendant un demi-siècle, en vérité.
Et il y a un individu, quand il aperçoit Hugo à un moment donné, qui lui dit « 1830 !» et Hugo dit « Non !» 1830, nous avions Charles X et un successeur, le duc d'Orléans. Aujourd'hui, c'est l'abîme. Eh bien, l'abîme est remplacé par quoi? Par un gouvernement provisoire qui tente de bricoler ce qu'il peut.
Ce gouvernement provisoire, il commence par chasser les pairs dont parlait Marc, là, avec leurs beaux habits dorés. Là, allez hop, dehors, messieurs.
Merci on dissout
l'Assemblée, enfin, ce qu'on appelle à l'époque la Chambre des députés. Par ailleurs, on révoque tous les préfets, sauf deux. Mais enfin, c'est-à-dire qu'on change tout le personnel, toute la haute administration, etc. Et puis, surtout, on va créer de nouveaux droits. C'est en ça que cette République de 48, cette Deuxième République, est un peu au cœur de l'imaginaire républicain encore aujourd'hui. On va créer, par exemple, le droit au travail. Vous imaginez, c'est un droit très positif. Même nous n'avons pas le droit au travail. Pas en tant que tel, il figure dans le préambule, me direz-vous. Mais en tout cas, ce droit au travail va donner naissance à des ateliers nationaux. Les ateliers nationaux, c'est une espèce de... Comment on pourrait dire? C'est une collectivisation de la production. C'est-à-dire qu'on se dit que sous l'égide de l'État, on pourrait créer des coopératives ouvrières et on n'aurait plus besoin de travailler, de s'échiner pour des patrons qui vous exploitent. Là, on travaillerait ensemble pour construire la richesse ensemble. Voyez.
Et ça colmate la brèche du chômage.
Bien sûr, bien sûr.
1 million de chômeurs.
Mais le problème, c'est que justement, il y a tellement de chômeurs que les ateliers nationaux sont tout de suite débordés.
Et on n'a rien à leur donner à faire.
C'est ça. Et l'État n'a pas les moyens, donc on baisse les salaires dans des proportions folles. Oui. Tout ça commence à créer pas mal de problèmes. D'ailleurs, ça va se finir très mal, puisque en juin... mais je vais vous dire pourquoi en juin. Avant ça, quand même, un mot de la liberté de la presse.
Oui, ça c'est important.
L'abolition l'abolition de la peine de mort pour des raisons politiques, parce que jusqu'ici on pouvait encore, et ça c'était ce qui avait fait complètement déraper la grande révolution de 89, c'était qu'on pouvait être exécuté pour des raisons politiques. À partir de 1848, on peut être exécuté pour des crimes de droit commun, mais pas pour des crimes politiques. Et puis on abolit, ne l'oublions pas, très important, on abolit l'esclavage.
Ah, j'attendais, je me dis, ça fait une heure qu'il a dit.
C'est l'un des grands acquis de cette République. C'est Victor Schœlcher, qui était sous-secrétaire d'État à la Marine et qui va donc faire abolir l'esclavage. N'oubliez pas aussi, très 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 important, c'était la revendication de Ledru Rollin au Grand Congrès de Lille en 1847.
Le suffrage universel.
Ce suffrage universel masculin, je précise. Il faudra attendre l'après Seconde Guerre mondiale pour les femmes. Mais en tout cas, ce suffrage universel va être admis. Alors, ça ne fait pas plaisir à la gauche de la gauche. Des gens comme Barbès, comme Blanqui se disent « Oh là là, si on accède au suffrage universel, ça veut dire que les campagnes vont voter, elles ne vont pas voter pour nous, elles vont voter pour des conservateurs. » Et c'est précisément ce qui se passe les 23 et 24 avril avec cette assemblée constituante qui envoie... Il y a 84% du corps électoral qui vote sur les 9 400 000 inscrits.
Ça fait rêver.
C'est invraisemblable. 84% de participation, voyez où on en est arrivé nous. Oui. Et à l'époque, ce sont les modérés, effectivement, les bons républicains mais bourgeois, qui sont très largement vainqueurs, à 500 voix environ. Les royalistes n'ont que 300 voix et les socialistes seulement 100. Il avait bien vu Blanqui, en fait. Il savait ce qu'il disait, évidemment. C'est donc un suffrage conservateur qui va créer l'insurrection du 15 mai à Paris. C'est presque encore une révolution, parce que les gens qui ont fait la révolution, qui ont instauré la République, c'est pas pour voir les bourgeois revenir et réinstaurer leurs lois passéistes, vous voyez. Donc ils se... Mais sauf que là, il y a un certain Cavaignac, et puis d'une façon plus générale, l'ensemble du régime, qui va réprimer dans le sang ces insurrections. C'est d'une violence
totale. Bugeaud est presque un enfant de cœur par rapport à Cavaignac.
4 000 tués au moment des insurrections de juin 48. Il y en a 1 600, me direz-vous, du côté des forces de l'ordre. Et il y a pire que ça, si je puis dire. C'est qu'il y a 1 500 personnes qu'on a fait prisonniers. Les prisonniers en question, on les abat sans procès. Comme ça, non mais c'est d'une très grande violence. On fera 25 000 arrestations, 11 000 condamnations. Je peux vous dire que les travaux forcés, le bagne vont
tenir. Et on ferme les ateliers généraux. Et
les ateliers nationaux.
Pardon.
Et il y en a un qui regarde tout ça depuis l'Angleterre où il est en exil. En prenant son thé, il est très malade, il faut vous dire, il lit son journal. C'est Louis-Philippe qui dit... Ben, la République, elle a bien de la chance, elle, puisqu'elle peut faire tirer sur le peuple, oui.
Il y en a un autre qui ne prend peut-être pas le thé, mais qui essaie d'être informé. Il a pour nom Louis-Napoléon, Charles-Louis-Napoléon. Celui-là avait rêvé de faire tomber notre Louis-Philippe. Il a eu 2 tentatives, on racontera
toujours. À Strasbourg et à Boulogne.
Voilà. Et il est en embuscade, laissant faire les choses. Il a toujours dit « quand je régnerai », c'est un leitmotiv chez lui. C'est-à-dire ce type qui n'est rien du tout, quand on lui parle, il dit « quand je régnerai », eh bien là, il sent que le destin lui fait un sacré clin d'œil.
Sacré clin d'œil. On verra dans la deuxième partie si le destin lui fait vraiment ce sacré clin d'œil. Pour l'instant, c'est moi qui vous en fais un, parce qu'on se retrouve dans un instant avec cette question. Quelles sont les grandes figures de 1848? On se retrouve dans un instant. À tout de suite. « 1848, retour à la République », c'est la deuxième partie de notre émission, chapitre 45, « La belle histoire de France » avec Marc Menon, Franck Ferrand, qui sont avec nous. Et puis là, je vais vous poser une question, messieurs, parce qu'à cette époque, 1848, on a parlé de cette révolution, on a parlé de la souffrance du peuple, on a parlé de tout ça, mais il y a de grandes figures. Quelles sont ces grandes figures qui émergent à ce moment-là?
Il y en a une, forcément. Il y a Lamartine, il y a Hugo,
on en a parlé.
Il y a Balzac qui est derrière aussi, mais Balzac
il va bientôt mourir, mais il est encore là.
Il est encore là, il peste. Oh, pour lui, c'est épouvantable.
Un petit français.
Oh là là, mais comment ça? Cette multitude grouillante, c'est intolérable. Ah, lui, il est du côté de Cavaignac. On a également George Sand. Alors, George Sand, elle est dans sa campagne. Mais quand elle apprend les événements, elle est outrée. Que dis-je? Elle est révulsée. Elle dit, c'est indigne. Comment une république peut ainsi mépriser son peuple et ce côté populaire. Elle dit à tout jamais, je serai contre cette République-là.
Qui d'autre encore, Arabe?
Alors, ben, il faudrait parler de ceux qui ont été arrêtés. Je vous ai parlé de Blanqui tout à l'heure, Barbès, Raspail. Tous ces gens-là font partie des insurgés qui vont être jugés par une cour spéciale à Bourges. On fait exprès de ne pas les juger à Paris parce qu'on craint bien entendu un soulèvement populaire. Donc on va les juger par la haute cour de Bourges. Entre parenthèses, vous voyez quand on dit Barbès, Raspail, Arago, ce sont des gens qui ont donné leur nom à tous les grands boulevards de toutes les grandes villes de France.
Bugeaud aussi, hein, dans le 16e.
Oui, un peu moins peut-être. Mais pourquoi? Pour une raison simple, c'est que à partir de 1875, avec l'ancrage de la Troisième République, cette nouvelle République, la Troisième, dont on parlera là dans quelques émissions, elle va se chercher des héros fondateurs. Et c'est en 1848, dans la fièvre de l'hôtel de ville de 48, qu'elle va les trouver. Le plus célèbre, le plus grand, le plus remarquable peut-être. C'est un très très grand orateur. On dit que personne ne pouvait lui résister. Vous ne pouviez pas débattre avec lui. Il vous laminait littéralement comme une lame de fond. C'est par ailleurs un physicien, un astronome. C'est Arago, bien entendu. Lui aussi.
Plus que brillant, effectivement un grand astronome qui a permis des avancées fondamentales dans le domaine de l'observation céleste.
On a beaucoup de sujets encore, mais une question subsidiaire. Comment ça se fait qu'il y ait autant de grandes personnalités à cette époque?
On peut penser que la succession des régimes, et surtout la République, a ouvert la possibilité
de l'instruction.
Et ça a permis aux plus démunis d'entrer dans les collèges. Alors quand on dit c'est pas la roture de la roture, le pauvre paysan qui crève la faim au fin fond du Cantal, malheureusement, il connaît pas grand-chose. Mais n'oubliez pas que l'école publique a été créé en 1835, et que là, il y a même des gamins des plus pauvres qui vont à l'école.
La porte de la méritocratie a été ouverte.
Votre question est fondamentale, Christine. Enfin. Mais c'est vraiment très important, parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que ça fait plus de deux générations qu'on a fait la révolution de 89. Nous, ça nous paraît assez resserré tout ça, mais pour les gens de 1848, ceux qui ont fait la révolution de 89, ce sont leurs grands-parents et arrière-grands-parents. Donc on a eu le temps de prendre ce qu'on appelle une conscience politique. C'est la raison pour laquelle il y a autant de figures qui sont marquées, d'ailleurs dans toutes les... à tous les niveaux du spectre politique.
Et je dirais le souffle de l'espoir. Parce que malgré toutes les atrocités de la révolution, dont la terreur en particulier, il n'en reste pas moins que touche à chacun, se dit que sous ce type de régime, il pourra connaître un avenir meilleur. Et comme, de façon concomitante, on a le progrès qui commence à se manifester, oui, c'est un avenir radieux auquel on peut croire.
Avenir radieux auquel on peut croire en France, mais aussi en Europe, et on va voir un peu ce qui se passe. Franck, je me tourne vers vous parce que cette période n'est pas seulement tumultueuse en France, elle est également dans de nombreux pays européens. C'est pas forcément un avenir radieux, on va voir. Comment expliquer ce phénomène qui a fait le retentissement de la révolution en Europe?
Je dirais que Marc vous a donné les deux clés tout à l'heure. Hein. Il a parlé de cette crise agricole et donc économique très importante, liée notamment à des accidents climatiques en répétition à la fin des années 1840. Donc la situation est difficile dans beaucoup de pays d'Europe. Et puis, d'autre part, il a parlé de l'espoir, cet espoir qu'on a fait germer. Et cet espoir, c'est quand même, disons-le bien, de Paris qu'il vient. C'est de Paris que souffle le vent de la liberté ou de la libération, diraient les progressistes. Le vent mauvais, diraient les réactionnaires. Ça dépend de quel côté vous vous situez. Mais en tout cas, il va y avoir en Europe des espèces de révélations, de révolutions, pardon, en cascade. L'Europe de 1848, dites-vous que c'est très largement l'Europe du traité de Vienne. Vous vous rappelez ce congrès de Vienne, 1814-1815, avec Talleyrand qui représentait la France à Vienne. On avait redécoupé l'Europe, on avait refait les frontières. La France était rentrée d'ailleurs dans ses frontières naturelles, comme on disait. Bon, cette Europe, elle était encore intensément monarchique, avec partout des rois, des princes, des grands-ducs, des empereurs qui dominaient l'ensemble de l'Europe. Il n'y a pas de république, hein, à part cette toute nouvelle république de 1848 qui va faire rêver tout le monde. Bien entendu, avec aussi, disons-le, une grande idée qui s'est répandue depuis maintenant une trentaine d'années, qui est l'idée nationale. Elle est née avec Napoléon, le grand Napoléon, Napoléon Ier, cette idée des nationalités. On réunit les gens d'un même peuple, d'une même nation, qui veulent secouer le joug de ces espèces de vieux empires dont ils n'ont plus grand-chose à faire. Ce sera le cas des Polonais contre la Russie, par exemple, des Hongrois, des Tchèques, on pourrait en citer beaucoup, des Croates, des Vénitiens. J'étais à Venise l'autre jour, c'est incroyable, comme le souvenir du joug autrichien est resté présent dans la Vénétie. Eh bien, tous ces gens-là, ils vont essayer de se débarrasser des Autrichiens, des Russes, des Allemands. Alors, il y a deux ensembles politiques qui sont en cours de formation. C'est l'Italie, qui n'est pas encore un pays unifié. C'est l'Allemagne, qui n'est pas encore un pays unifié. Et là, vous avez des bourgeoisies qui voudraient, sur le modèle de l'Angleterre, et accessoirement de la France, qui voudrait créer des nations constituées. Vous voyez toujours ce principe de nationalité. On ne veut plus de l'oppression monarchique, on veut des libertés individuelles. Ça se passe comment ? Ah mais à Vienne, c'est une catastrophe, hein. C'est Radetzky qui va noyer littéralement le printemps, parce qu'on appelle ça le printemps des peuples, 1848. Radetzky va noyer le printemps des peuples dans le sang, littéralement. Même chose à Naples, même chose à Berlin. On remet François-Joseph sur son trône à Vienne, on remet Frédéric Guillaume IV sur son trône de Prusse à Berlin. Quant au tsar, il va commencer par écraser complètement la révolution de 48 en Pologne, et ensuite il viendra prêter main forte à son cousin d'Autriche pour écraser les Hongrois. Vous voyez, c'est comme ça que ça se passe.
C'est très intéressant.
Il ne sait pas ce qui attend ses descendants.
Bon. En tout cas, très intéressant d'avoir en tout cas ce panorama européen pour voir un peu ce qui se passe. On va voir maintenant cette élection, fameuse élection de 1848. Ce n'est pas rien ce qui se passe à ce moment-là. Le 10 décembre 1848 a lieu une élection, celle de Louis-Napoléon Bonaparte comme président de la République au suffrage universel, mon cher Marc.
Oui, alors, il ne s'est pas manifesté. Je vous ai dit tout à l'heure.
Il était en embuscade, le petit coquin.
Voilà, il est en Angleterre. Il a fait savoir, parce que forcément, sur place, c'est quand même un solitaire. C'est un homme, s'il a mené deux coups d'État qui ont avorté, c'est parce qu'il est dans cette capacité à agir sans avoir à en référer à quiconque. Mais néanmoins, on a les nostalgiques de Napoléon. Et il représente, il est le neveu de l'empereur. Et cela, les Bonapartistes...
Il sautait sur les genoux de l'empereur.
Ah, ça, je vous le raconterai, la prochaine fois.
Ah, et donc, on veut bien savoir.
Et donc, le peuple, enfin, chez les Bonapartistes, on fait tout pour que dans ces élections, où officiellement il n'est pas candidat, pour qu'il soit élu, et il obtient plusieurs sièges. Car n'oubliez pas qu'à cette époque, quand on vote pour l'Assemblée, vous pouvez être élu à plusieurs endroits, dans plusieurs circonscriptions, et ensuite vous choisissez celle que vous retenez. Et ça, ça lui donne le point d'appui. Et de là, eh bien, il se décide, comme s'il se faisait désirer. Vous êtes vraiment sûr que vous avez besoin de moi ? Bon, bah alors, je vais bien venir. Et hop ! Il prend le bateau, traverse la Manche, et le voilà qui monte vers la capitale.
Alors, comment ça se passe ?
Eh bien, comment ça se passe ? C'est que là, ensuite, nous avons les élections en tant que telles. Alors,
il y a eu déjà ces élections d'avril, voilà. Et puis là, on vient de refaire des élections en novembre pour la législative. Oui. Donc, les gens commencent à prendre goût au suffrage universel, ils commencent à comprendre comment ça fonctionne, et là, on leur propose d'élire le chef de l'État. C'est pas un petit détail, hein, quand même, parce que c'est quand même la toute première fois dans l'histoire de France que les Français vont élire leur chef d'État. Hein.
Et on est élu pour 4 ans.
Dans les villes, dans les campagnes.
Oui, je vous donne simplement, on va répondre à Christine, pardon. C'est juste préciser, parce que ça paraît... Oui. C'est un mandat de 4 ans et pas le droit de se représenter. Ah, voilà. Et en revanche, partout, il y a une mobilisation.
C'est très, très, très important ce que dit Marc, parce que ce sera l'origine du fameux coup d'État.
Oui. Pour l'Empire.
Si Louis-Napoléon avait eu le droit de se représenter, et si le mandat avait duré un peu plus de 4 ans, il est très probable qu'il n'y aurait pas eu tout de suite, en tout cas, ce coup d'État. Mais là, il fallait faire un coup d'État si on voulait rester au pouvoir. Il n'y avait pas de... Un peu, toute proportion gardée dans un autre registre, un peu ce qu'a fait Poutine, vous vous rappelez, pour rester, il faut changer les institutions si vous voulez rester au pouvoir.
Beaucoup de chefs d'État font ça.
Moi, je dirais qu'il y a une sorte d'emballement de la population en général. Et ça va se traduire dans les urnes. C'est-à-dire qu'il écrase littéralement ces élections. Cet homme qui ne mène pratiquement pas campagne, et bien sur son seul nom, d'ailleurs, il le dit, c'est mon nom qui est la référence. Je n'ai même pas besoin de programme. Alors notons quand même qu'il a écrit un traité, c'est le traité du paupérisme. Et c'est comment il envisage l'avenir pour les ouvriers. Dans un monde où les illettrés sont nombreux, peu ont lu cet ouvrage, mais il n'en reste pas moins que la rumeur permet de laisser songer que cet homme-là est celui qui offrira à tout à chacun la potentialité d'un présent et surtout d'un avenir plus confortable.
Et il va être élu très confortablement.
Ça, oui.
74,2% des suffrages exprimés, vous imaginez. Ça fait rêver nos présidents d'aujourd'hui. 74,2% des suffrages pour Louis-Napoléon, le neveu, dont le nom est Bonaparte sur les bulletins de vote. Vous imaginez, ça parle à tout le monde dans toutes les campagnes, dans les coins les plus reculés de France. On sait très bien qui était Napoléon. Et on se dit, ah, mais c'est Bonaparte qui revient. Il y en a même, mais il y en a même qui croient qu'il vote pour Napoléon Ier, hein, alors qu'il est mort depuis 1821.
On peut le lire, là. Bulletin de vote,
l'élection. Napoléon, Bonaparte, vous voyez. Et les gens disent, je vote pour Napoléon, Napoléon. Et alors on leur dit, et Lamartine? Lamartine, il va faire un score.
2%.
Mais 2%, le pauvre. Et il y a des gens qui croient que c'est une femme. La Martine, qui c'est cette Martine?
Pardonnez-moi cette question de Béotienne, mais à l'époque, justement, où il n'y avait ni téléphone portable, ni le moyen de communication, justement, pour informer la population.
Mais il y avait
qui était en plus illettré.
Vous avez le garde-champêtre, vous savez. C'est-à-dire, il passe avec le tambour dans les rues, dans les petits villages, et il annonce les nouvelles. Et puis après, vous avez, sur le plan local, les petits meetings dans les préaux. Voilà, c'est là que l'on donne de la voix,
Les lettrés au café. Vous savez, les bistrots, comme on les appelle depuis l'occupation de 1814-1815, ce sont les Russes qui les ont appelés ainsi, parce que bistrot, ça veut dire vite en russe. Eh bien, vite, bistrot. Et donc, on s'est mis à les appeler comme ça. Eh bien, les bistrots, on va les voir s'ouvrir partout dans toute la France. Et vous avez ce qu'on appelle les lettrés. Il y a toujours un vieux notaire dans le coin du bistrot. Il y a toujours qui sait bien lire. Alors on lui donne le journal. Alors
le petit café littéraire.
Voilà, selon l'établissement, le journal est de droite ou de gauche, peu importe. Mais on ouvre le journal et le bonhomme, il lit pour 10, pour 15, pour 20 personnes qui écoutent parce qu'ils ne savent pas lire.
Et en plus, il commente. C'est-à-dire qu'il influence. Il dit, mais quand on note ça, c'est un scandale. Mais ne sachez que Bonaparte, c'est quand même lui qu'il faut retenir. Sachez, quand vous aurez le bonheur, car grâce à notre République, vous pouvez vous manifester, eh bien, pensez à Bonaparte. Sinon, c'est à nouveau le royaume qui risque de vous retomber dessus. Bref, c'est comme ça qu'il gagne.
Et on peut se dire, ça, c'est pour le petit peuple qui vote en masse, donc. Hein. Mais dans les hautes élites parisiennes, on peut se dire, comment se fait-il que ces gens-là laissent un Napoléon remonter, alors pas tout à fait sur le trône, mais redevenir chef de l'État. Alors quand même, on fait bien attention à ne pas l'installer aux Tuileries, hein. On va l'installer au palais de l'Élysée. C'était là d'ailleurs, c'était de l'Élysée qui était parti pour l'exil, son oncle Napoléon Ier. On le met à l'Élysée et alors on fait bien attention que l'Élysée ne soit pas trop rutilant quand même. Ça doit bien être une sorte d'appartement de fonction. Vous voyez, on fait quand même bien attention.
Sobriété.
Voilà, sobriété. Mais enfin, on va voir ce qu'il va en être de la sobriété.
Et alors, connaît les lieux, hein.
Oui.
Puisqu'il a été, effectivement, on le racontera encore la semaine prochaine, il a été souvent l'un des invités de son oncle à cet endroit quand il était tout minot.
Bien sûr. Et donc ces gens, très bien, par exemple, je vous donne un exemple, c'est le conservateur Adolphe Thiers, qui a été président du conseil du temps de Louis-Philippe, et qui plus tard, après l'effondrement de Sedan en 1870, sera le chef de l'exécutif de l'Assemblée ultra-conservatrice. Eh bien, ce conservateur dans l'âme, finalement, qu'est l'historien Adolphe Thiers, le tout petit bonhomme, vous savez, celui celui qui avait oublié sa canne, là.
Le gnome.
Le gnome. Eh bien, le petit Adolphe Thiers avec ses beaux favoris, là. Quand on lui dit, mais alors, vous allez laisser un Bonaparte revenir au pouvoir? Oh, dit-il, c'est un crétin qu'on mènera comme on voudra. On est convaincu que ce type, qu'on n'a jamais vu, parce qu'il débarque de l'étranger, mais Marc nous racontera ça dans l'émission prochaine, on est convaincu qu'il n'est pas très dangereux. On est loin d'imaginer qu'il va s'installer et qu'il va recréer l'Empire.
Et reprenons le Père Hugo. Mais il est pour.
Oui.
C'est-à-dire qu'il se dit, non mais il voit là un espoir. C'est incroyable. Parce que comme dit Franck, on ignore tout du bonhomme, néanmoins quand on est lettré, on sait que c'est un fanfaron qui part deux fois de façon plus que minable à tenter de faire tomber le roi, et c'est cette escogriffe qui pourrait être capable de régner. Eh bien oui, et il n'a pas vraiment pour autant, c'est un homme seul qui va créer son cabinet à partir d'éléments épars. C'est quand même étonnant, c'est à croire au destin.
Incroyable ce premier suffrage universel. Juste encore, qui est-ce qu'il y avait comme les autres candidats, en fait, Lamartine ?
Cavaignac, très important. Alors, oui. Cavaignac représentait, lui, l'ordre, mais ce n'est pas le parti de l'ordre. Non, le parti de l'ordre, c'est Louis-Napoléon Bonaparte. Cavaignac représente le conservatisme, si vous voulez. Il y avait Lamartine, donc le Drurolin, très important. D'accord. Et puis la gauche était représentée par Raspail. C'est pour ça que ce nom de Raspail est resté... Hein. Il n'était pas là.
Le Drurolin, il était à gauche ?
Oui. Raspail, ce qui est fascinant, c'est que Raspail est candidat alors qu'il est en prison depuis le 15 mai.
Hein. Ah,
mais on va quand même voter pour lui. Voilà les candidats qui étaient en lice.
Très intéressant pour ce premier suffrage universel de l'histoire de France. Messieurs, dernière question. Que peut-on retenir ? Quel est le bilan de cette année 1848 ? Pour vous, Marc, et ensuite Franck.
Ben moi, je dirais que ce n'est pas un bilan. Je pense que dans l'histoire, il y a un moment où ceux qui sont au pouvoir ne détiennent plus rien du tout. C'est comme si il y avait dans les entrailles du peuple les contrariétés, tous les manques qui sont une tourmente digne d'un volcan. Il y a une nécessité éruptive. Et c'est ça qui se manifeste. Et quand malheureusement on essaie de faire en sorte qu'il y ait un étouffoir pour les mater, eh bien, ça rejaillit plusieurs fois. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire que aujourd'hui, dans une telle situation, on pourrait imaginer qu'à nouveau, l'ordre clappe les rivets et qu'on ne bouge plus. Eh bien là, jusqu'au bout, ils reprennent. Il peut y avoir des morts et des morts. Il y a une nécessité viscérale de sortir de cette royauté.
Alors vous allez voir ce que c'est qu'un optimiste et un pessimiste. Ça, c'est la version optimiste de 1848. C'est que vous ne pourrez pas bâillonner éternellement le peuple. La preuve. Et le roi Louis-Philippe, comme l'a fait remarquer Marc, la veille même de son départ, il dit à Victor Hugo, « Mais non, je suis nécessaire, dit-il. Voilà. Je suis nécessaire, donc on ne me chassera pas. » La reine Marie-Amélie, elle était beaucoup plus méfiante. Elle disait, « Le roi doit savoir ce qu'il fait. » Sous-entendu, à mon avis, les choses lui échappent.
Bref. Elle était méfiante de tout. Hein.
Ça, c'est le bon côté. Il ne faut pas oublier à quoi a ressemblé cette année 1848. On chasse Louis-Philippe,
oui.
On établit ce gouvernement provisoire, oui. On établit des droits nouveaux, des principes nouveaux, on essaie d'instaurer une véritable république, ce qui n'avait pas marché la première fois en 1792 jusqu'en 1799. Les sept premières années, on ne peut pas dire que la première république ait été très brillante. On pourrait la faire aller jusqu'en 1804 d'ailleurs, puisqu'après tout le consulat est toujours officiellement une république. Bref. On monte tout ça, le grand espoir, le peuple qui se croit enfin au pouvoir, et clac, juin 1848, la répression, la mise au pas, les bains de sang. Et là, je ne peux pas évoquer cette période, évoquer cette situation, sans penser à l'un de nos grands devanciers, peut-être notre saint patron, si je puis dire, avec Marc, qui était Henri Guillemin. Henri Guillemin était un grand conférencier, un homme qui racontait l'histoire à la télévision suisse romande à l'époque, dans les années 50, 60, au début encore des années 70. Et Henri Guillemin était fasciné par ce phénomène. Il disait que toute l'histoire n'était qu'une tentative du peuple pour accéder au pouvoir et qu'à chaque fois que le peuple pense être au pouvoir, il y a des élites qui arrivent pour écraser les choses et pour faire des bains de sang. Il appelait le peuple la cariatide, lui. Il disait la cariatide parce que c'est ce peuple qui portait l'édifice, disait-il. Eh bien, cette cariatide, elle est toujours le dindon de la farce.
Et l'ensemble de l'Europe était au diapason, vous voyez. Donc, ça montre bien cette nécessité éruptive.
Très intéressante analyse, pas tout à fait partagée.
On va dire, ce sont les négatifs.
Mais j'adore en tout cas.
Soyons positifs.
J'adore les deux pièces de la même monnaie. Messieurs, le résumé, l'insurrection parisienne qui en février 1848 chasse le roi Louis-Philippe débouche sur une république. De grands auteurs, Hugo, Lamartine, Georges Sand, se mêlent aux politiques pour réformer les institutions. Et puis l'exemple parisien fait tache d'huile en Europe. Les peuples se soulèvent en Allemagne, en Autriche, en Italie. Voilà pour le résumé. Maintenant, vous, deux livres. Merci. 20 sur 20 pour une fois. Présentation des livres avec Alain Decaux, Victor Hugo pour vous.
Ce matin-là, sur le trottoir, boulevard des Capucines, oh, il était là, le grand Victor.
Victor Hugo, une formidable biographie d'Alain Decaux.
C'est que Alain Decaux avait une passion pour Victor Hugo et qu'en 1985, pour le 100e anniversaire de la mort d'Hugo, il fait paraître ce qui est de loin son meilleur livre. Oui, c'est vrai.
Ah oui, oui.
Et Sylvie Hiver, au moins le souvenir.
Au moins le souvenir. Ah, ça c'est magnifique, chez Héloïse d'Ormesson. Sylvie Hiver, c'est un très beau livre qui évoque le Lamartine politique, mais qui l'évoque de l'intérieur, qui nous le fait parler, comprendre et sentir. Très beau livre.
Merci beaucoup, messieurs. Alors maintenant qu'on a vu que Louis-Napoléon Bonaparte est
élu
à l'Élysée, voilà, premier, on verra la semaine prochaine, effectivement, qui est-il, d'où vient-il? Que va-t-il faire? Excellente suite de programme sur CNews et à la semaine prochaine. Merci à vous deux.
Hi, this is Craig Robinson from Ways to Win. And support for this podcast comes from Invesco QQQ, the official ETF of the NCAA. The future isn't scary, not realizing its potential, however, could be. Just like on the recruiting trail, I've seen potential come in many forms as a coach. Learn more at Invesco.com/QQQ. Let's rethink possibility. Invesco Distributors, Inc.